France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Si on associe le nom de Pierre Alféri à la poésie ou à la littérature française contemporaine, il serait plus judicieux d'affirmer qu'il occupe une place singulière dans le champ plus étendu de la pensée et de l'invention. Voilà la première phrase d'un ouvrage collectif consacré à l'œuvre protéiforme de Pierre Alféri, disparue en août 2023. Un champ étendu avec de la pensée et de l'invention. On prend pas beaucoup de risques en affirmant que cela lui plairait. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, le Book Club rend hommage à ce poète, écrivain, fondateur de revues, dessinateur, parolier de chansons, compagnon de chorégraphie, auteur de pièces de théâtre, théoricien, traducteur, amateur de croisements et invité toujours si réjouissant à la radio. Rodolphe Burger, Fanny de Chaillé et Jeff Barda sont avec nous pour évoquer son œuvre et vous donner envie de la relire ou de la découvrir. En fin d'émission, le jeudi, nous prenons des nouvelles du livre Au-delà des frontières grâce au réseau de correspondants à l'étranger de Radio France. Richard Place nous arrive de Londres. On pourra bientôt acheter là-bas des raretés issues de la bibliothèque du batteur des Stones. Vous savez qu'ici, on se quitte en chanson, grâce d'habitude à vos trouvailles de lecture, mais aujourd'hui, c'est spécial et c'est moi qui vais participer au grand jeu des pages musicales. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Et bienvenue à vous, Fanny de Chaillé.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Rodolphe Burger, vous m'entendez ?
Bonjour, oui, je vous entends.
Bienvenue, Rodolphe.
Merci d'accepter que je participe à distance.
Généralement, ça fonctionne. Voilà, si ça ne fonctionne plus, vous toquez quelque part.
Oui, très bien.
Et bonjour à vous, Jeff Barda.
Bonjour, merci.
On vous connaît pour vos activités diverses. Aujourd'hui, on va parler de l'œuvre de Pierre Alféri. On peut dire que vous êtes chorégraphe, metteuse en scène et future directrice du TNB de Bordeaux, Fanny de Chaillé. On peut dire que vous êtes musicien, performeur, compositeur, chanteur, Rodolphe Burger. Et on va dire que vous allez le dire en anglais, vous êtes maître de conférence, mais vous êtes en fait Jeff Barda.
Senior lecturer.
Voilà. Quand est-ce que vous avez rencontré et en quel lieu l'œuvre de Pierre Alféri, Fanny de Chaillé ?
Alors moi, je crois que c'est avec la revue de littérature générale, au départ. Donc
1995.
Voilà, alors voilà, je suis nulle en date, mais c'est ça. J'ai vu Pierre et Olivier Cadio présenter cette revue, et pour moi, ça a fait l'effet d'une bombe, en fait. À l'époque, j'étais étudiante, je travaillais sur la poésie sonore, enfin la poésie des avant-gardes. Et je, voilà.
Vous étiez étudiante en quoi ?
En histoire de l'art et en esthétique. Et je tombe là-dessus, quoi. Et c'était dingue, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout s'est ouvert. Et je pense que c'est une revue qui a permis à beaucoup d'écrivains de se projeter. Et moi, ça a été vraiment... c'est comme si ça m'avait autorisé à faire des choses. C'est fou. Et puis après, c'est le cinéma des familles. Le premier texte que je lis vraiment de Pierre, c'est celui-ci.
Qui est plutôt une forme romanesque.
Exactement.
Et c'est 1999, si je me souviens bien. À quoi ressemble cette présentation par Olivier Cadio et Pierre Alféri de cette... premier opus donc a marqué tout le monde, c'est Mécanique.
La mécanique lyrique.
La mécanique lyrique.
Digest.
Voilà, donc ça c'est vraiment le titre de la revue de littérature générale. Ils sont dans un lieu, ils
Alors,
parlent,
ouais,
ils disent
on est
quoi
exactement au théâtre Olympia à Tours, qui aujourd'hui est devenu un lieu de jazz, mais à l'époque c'était un petit théâtre, et ils sont sur la scène, je me souviens très bien, invités par le libraire où j'allais acheter mes livres, quoi. Et je les trouve très drôles, mais vraiment très drôles. Ils font un espèce de ping-pong, une joute comme ça, verbale, et ils présentent cette revue comme une boîte à outils, en fait. Et vraiment, je m'en suis emparée comme ça. Et c'est vraiment devenu j'y reviens souvent d'ailleurs, c'est un endroit vraiment... c'était le premier tome, hein, donc c'était
oui,
la mécanique lyrique.
C'est ça.
Voilà.
Jeff Barda, en quel lieu vous rencontrez l'œuvre de Pierre Alféri ?
Ben, je vais répondre un peu de la même manière. Sauf que je vais me présenter plutôt d'une position différente, puisque j'étais étudiant, enfin, finalement, un peu comme toi. J'étais étudiant à l'ENS à Lyon, et je suivais des séminaires par Jean-Marie Glaise, qui incarnait, si on veut, l'anti-lyrique, enfin, l'école anti-lyrique. Et je découvre ces deux pavés, parce que ce sont quand même deux pavés. Et là aussi, en fait...
Il est le numéro de la revue Littérature Générale.
Oui, il est numéro 1, numéro 2. Il devait y avoir un numéro 3 qui n'a pas abouti. Et à ce moment-là, peut-être que j'avais envie d'écrire à l'époque, je ne sais pas. Je me suis dit plus ou moins les mêmes choses. Voilà une boîte à outils, dans laquelle on peut prendre des...
Mais c'est-à-dire, vous prononcez ce mot-là, ça ressemblait à quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans cette revue qui fait office de boîte à outils ?
Alors, c'est une revue qui entreprend de faire, de retourner, disons, à l'histoire des avant-gardes, mais d'y retourner sans nostalgie, et de proposer à la fin du volume un sommaire avec des techniques d'hétérogénéité pour assembler, pour coller, pour zoomer, pour sampler des matériaux préexistants qui ne sont pas nécessairement du texte. Et à ce moment-là, pour moi, ce numéro-là produit un choc, hein, finalement, puisque c'est une manière de dire on peut continuer la poésie sans faire de l'oulipo. Et la différence, elle est là, c'est que les techniques, ce ne sont pas des contraintes. Hein. Et moi, je vois ce moment-là comme un moment de passage dans l'histoire littéraire où on peut continuer à produire, non pas des formes, comme l'oulipo, mais des effets, hein, des objets qui produisent des effets.
Fanny de Chaillé parlait de l'humour, de quelque chose comme ça qui... Oui, ça m'étonne pas du tout de me projeter comme ça presque 25 ans en arrière et d'imaginer ces deux personnes drôles sur une scène en train de lancer quelque chose où il y avait des enjeux théoriques très importants aussi. Hein. On peut dire qu'à ce moment-là, si j'ai bien compris, la scène poétique française, si on croit à Pierre Alféri, c'était pas fun. En tout cas, il y avait besoin de relancer, de son point de vue, un peu la machine.
Il est bon de relancer la machine sans refaire de l'oulipo, sans refaire du surréalisme et sans jouer la pose, disons, des poètes lyriques. Et ce renouveau a été possible par cette revue, mais aussi par un décentrement, puisqu'il a fallu que ces poètes découvrent les poètes américains, les poètes italiens, les poètes russes, etc., pour pouvoir les reprojeter, si vous voulez, en avant, sans jouer la nostalgie, sans jouer la pose avant-gardiste. Un petit peu caricatural qu'on connaît, qui était le vœu de produire des textes illisibles, transgressifs, etc. Et donc, on pouvait réinjecter, si vous voulez, des affects heureux. Et pas des affects tristes.
Oui, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué quand j'ai découvert l'œuvre de Pierre Alféri. C'est peut-être pas l'affect heureux, mais l'affect vivant. Moi, c'est quelque chose, c'est vraiment la vitalité des textes qui me marquait. Rodolphe Burger, vous entrez en quel lieu dans l'œuvre de Pierre Alféri?
Alors j'ai eu la chance de rencontrer Pierre au berceau. Enfin, il avait 17 ans, imaginez ça. Moi j'avais 23 ans et on était l'un et l'autre au début de quelque chose. Lui n'avait encore rien publié, mais on est devenus amis tout de suite et j'ai donc assisté à l'éclosion quoi de l'auteur Alféri. Ça a commencé par son livre philosophique.
Sa thèse?
Sur sa thèse, oui, ouais. qui a été publiée immédiatement chez Minuit. Il avait 23 ans, il fait une thèse et boum, c'est directement publié chez Minuit.
Donc philosophe, théologien du XIVe siècle.
Oui,
Guillaume.
Et puis, très peu connu ou très peu traduit, donc il a travaillé à partir du latin, enfin c'était assez extraordinaire d'assister à ça. Et à peine avait-il fini sa thèse et publié le livre, le voilà qui bifurque complètement et qui choisit de faire écrivain de poésie, de littérature en général. Et après, je dirais, le premier livre qui marque ça, il y a un livre de poésie qui s'appelle Le chemin familier du poisson combatif. Et puis un petit livre qui s'appelle « Chercher une phrase », qui reste aujourd'hui extraordinaire à lire et relire. Quoi. Et on a l'impression, j'ai en tout cas l'impression, que Pierre était là du premier coup tout entier. Quoi.
Et c'est, donc, qu'est-ce c'est que vous voulez dire par là, être là du premier coup tout entier? C'est-à-dire quand vous le rencontrez à 17 ans, qu'il n'a pas encore soutenu cette thèse, qu'il n'a pas encore, comme vous dites, décidé de faire écrivain, Rodolphe Burger, ça veut dire quoi être là du premier coup tout entier?
Là, je pensais plutôt à ses textes, à ses premiers textes. Mm. Mais en effet, il y a eu aussi dans sa personnalité, on est devenus amis immédiatement. Et c'est un ami que j'ai tout de suite sollicité. J'ai pressenti son talent. et je l'ai sollicité parce que moi j'étais au début d'autre chose, qui était une aventure plutôt de rupture par rapport à la philosophie, où disons je connais le large et je recommençais l'histoire de musique. Et il a accompagné toute cette histoire. Moi, avec mon groupe Catonoma, on a dû écrire 70 chansons ensemble. Et les toutes premières, c'est à lui que je suis allé. C'est auprès de lui que j'ai demandé s'il veuille bien m'écrire des textes de chansons, chose qu'il n'aurait sans doute pas faite spontanément.
Il a dit quoi quand vous lui avez demandé « écris-moi des textes de chansons »
Il m'a dit oui, d'accord, je vais.
Je vous avoue qu'on sait pas, voilà, on n'a pas boudé notre plaisir. Moi, la chambre de Cato Nomar, Rodolphe Burger, fait partie d'un mince panthéon de chansons qui sont extrêmement chères à mon cœur. Bien sûr, c'est un peu attendu d'écouter la chambre de Cato Nomar quand on rend hommage à Pierre Alféri, mais en fait, pourquoi pas? Alors voilà, c'est 1995, c'est la date de découverte de cette revue de littérature générale, et c'est après que Pierre Alféri a dit bah, je vais essayer.
Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez ça était. Vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Pour vous servir d'acolyte, j'aurais mon parapluie, qui sait. Dans ma chambre, vous croqueriez une pomme petite, vous tremperiez dans le thé des langues de chat en silence. Et après le débat, comme dit Casanova, fronçant les sourcils, vous diriez, c'est bizarre. Car vous n'auriez qu'un mot à dire dans la rue, la journée. Si seulement il vous en disait.
Pierre Alféri, je le découvre par les textes qu'il signe pour Cato Nomar, dont La Chambre, mais je le connaissais aussi par la revue de littérature générale qu'il avait publiée avec Olivier Cadio en 93 chez POL. Il m'apparaissait comme ce personnage de l'ombre avec une récurrence régulière, mais sans jamais le situer pleinement. Peut-être n'a-t-il jamais cessé de brouiller les pistes, un peu à l'image de certains de ses recueils. En 2018, j'ai pu lire Hors sol, par exemple, je me suis fait la réflexion qu'il nous dit autant qu'il fuit. C'est troublant et c'est assez sublime. Aujourd'hui, je m'attache à ces recueils de poésie avec la garantie de quelque chose qui m'échappe. Et c'est si bon de voir les choses nous échapper. On ne doit pas en tirer de frustration, non, au contraire, peut-être une joie intérieure qui ne cache pas, elle, sa part de douleur. Une gourmandise aussi, textuelle, visuelle, cette chose qui se lit comme un aveu. Un aveu de quoi? Peut-être l'aveu même de cette gourmandise, justement, qui s'exprime par une surenchère de mots, non sans humour, de manière très signifiante, mais point trop. En fait, c'est cela, sa disparition ouvre quelque chose pour moi, elle crée une proximité, une familiarité même avec quelqu'un que je ne sais ne pas connaître, je n'ai pas l'intention ni la prétention de connaître un jour, mais que j'aimerais rencontrer, vraiment, fortement.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un aveu de gourmandise, de l'humour, des mots, mais point trop, des choses qui échappent. Il est très beau ce message laissé par l'auditeur, lecteur Emmanuel, qui dit vouloir rencontrer Pierre Alféri vraiment, fortement. Et c'est peut-être ça qui est beau avec les livres. C'est l'idée qu'on peut continuer de rencontrer vraiment et fortement quelqu'un, même après sa mort. Aujourd'hui, votre book club rend hommage à l'écrivain Pierre Alféri. C'est super bizarre de faire cette émission. C'est-à-dire que c'est à la fois, je veux dire, elle s'impose, c'est un immense auteur, et en même temps, c'est extrêmement étrange, Fanny de Chaillet, je vous vois émue, mais je le suis aussi. Donc on rend hommage à Pierre Alféri, dont une grande partie de l'œuvre a été publiée chez POL, mais on parlait tout à l'heure aussi de Chercher une phrase qui était chez Bourgois. Alors il y avait les performances, il y avait les ciné-poèmes, il y avait tout un territoire d'expérimentation, votre collaboration au théâtre aussi évidemment, Fanny de Chaillet. Dans un texte inédit, je ne retrouve plus là tout de suite la date, mais il dit « À plusieurs reprises, par des laisses, des créneaux, des calques, des arbres, j'ai essayé de figurer à même la page un espacement non linéaire et non isomorphe. Mon désir était en tout cas d'imprimer aux phrases un mouvement contagieux, des sauts, des contorsions pour que la syntaxe devienne une chorégraphie, que la parole avance fouettée par le vers. » Quand on lit ça, on se dit que c'est presque une déclaration de quelqu'un qui adore le plateau. Fanny de Chaillet, est-ce que ça a été aussi votre point de rencontre? C'est-à-dire que tout à l'heure, vous disiez, ok, cette revue, vous êtes étudiante, et après?
Et après, j'ai forcé un peu cette rencontre, en fait. C'est-à-dire que j'ai été invitée à Actoral, un festival à Marseille, à travailler avec un auteur. Et je me suis dit, c'est, voilà, que c'était avec lui que j'avais envie de travailler. Donc, je me suis arrangée pour le rencontrer par une amie que nous avons en commun, Sarah Murcia, pour ne pas la citer.
Musicienne.
Voilà, musicienne, contrebassiste. Et je l'ai rencontrée et je lui ai proposé d'écrire un texte pour la scène. En lui donnant une contrainte un peu précise, en disant que je voulais qu'il écrive un texte que je pouvais sortir de la page et qui allait être visible sur scène. Ce qui l'a beaucoup amusé parce que, du coup, je lui demandais d'écrire une partition, quoi. Et donc, ça a été notre premier travail ensemble. Et au fur et à mesure, je l'ai un peu comme ça, pas forcé, mais c'est comme ce que Rodolphe disait, c'est-à-dire que c'est moi qui ai proposé à chaque fois, c'est pas venu de lui, enfin c'est pas lui qui avait envie d'écrire du théâtre en soi, c'était pas son, voilà, son intérêt je crois. Mais en tous les cas, il y a répondu toujours avec extrêmement de sympathie et beaucoup d'intérêt je crois au final, c'est-à-dire que ma demande devenait une contrainte littéraire qui l'intéressait suffisamment pour qu'il y réponde en fait.
Jeff Barda, dans l'ouvrage collectif consacré à l'œuvre de Pierre Alféri, il est beaucoup tout le temps question de mouvement. Comme si on parlait tout à l'heure de la vitalité, du caractère, vivant de ces textes, faisait en sorte de traduire l'idée que ça bouge dedans. Mais alors, est-ce qu'on peut le traduire en maître de conférence qui nous parle de littérature? Ça veut dire quoi, ça bouge? Ça veut dire quoi, une parole fouettée par le vers, comme le dit Pierre Alféri?
Alors, en vous écoutant lire cette citation, je me suis peut-être demandé si cette citation ne venait pas de son HDR. Qui n'a pas été publié, mais dont certains extraits ont été publiés dans Bref, qui est un recueil de textes théoriques en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... C'est concevoir la littérature ou l'art comme une pratique du mouvement. Ça veut dire ne jamais finalement... rentrer dans une approche qui serait une approche générique, par exemple, ça serait essayer d'être un peu un touche-à-tout, de passer d'un lieu à l'autre. Mais si on pense au théâtre, par exemple, le théâtre, c'est intéressant parce que c'est le lieu du mouvement, c'est un art de l'espace, et c'est un art dans lequel Alféri s'est intéressé parce que le théâtre, c'est un moyen aussi de penser le vers différemment. Et ce qui intéressait, en tout cas dans cette pièce que vous avez fait ensemble parler, c'est de montrer que la parole, ce n'est pas justement un élément figé, c'est un élément performatif. Et parler, c'est un verbe à l'infinitif, qui est un verbe, c'est un speech act, hein, c'est un verbe d'action, c'est un... Et je crois que ce qui intéressait Pierre, c'était de montrer ce qu'on peut faire avec la parole, ce qu'on peut faire avec les choses, et faire avec... C'est un moyen de mettre du mouvement dans les choses ou entre les choses, de telle sorte à créer soit des expériences d'étrangeté, des expériences de déséquilibre, et de montrer comment la phrase est une performance du sens.
Est-ce que, par exemple, ce serait très très résumé de dire que il faisait entrer quelque chose de prosaïque de la parole dans le texte? Au même sens qu'il faisait entrer des gestes, des objets dans le texte et qu'il regardait ce qui se passait, mais aussi pour le faire bouger. Je m'explique, c'est-à-dire que j'ai l'impression que tout ce que vous expliquez du point de vue formel, dans ce que j'ai pu comprendre, lire, etc., jamais c'était satisfaisant au point où on se disait « Ah bah super, j'ai donc trouvé une forme, je vais donc écrire comme ça ». J'avais l'impression que tout était tout le temps aussi construit, déconstruit.
Mm-hmm. Bah, si vous pensez par exemple à un texte comme « Cubor », qui est un texte de poésie, c'est un texte de poème qui forment des cubes, où le dernier mot...
Sur la page.
Ouais, sur la page. Et où le dernier mot figure le sens du poème. C'est une sorte de devinette, si vous voulez. Et donc forcément, vous lisez le texte une fois, vous lisez sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Ensuite, vous avez la réponse, si vous voulez. Et du coup, vous êtes obligé de recommencer. Parce que du coup, en recommençant, c'est comme finalement si on appuie sur un bouton pour pouvoir recommencer. Vous voyez, ça, c'est une performance du sens. Voilà.
Rodolphe Burger, je sais qu'on a entendu par exemple dans La Chambre cette chanson de Kato Noma. Il y a comme ça un riff de guitare aussi assez répétitif. Le texte en lui-même est assez répétitif. Qu'est-ce qui, dans la rencontre entre vous deux, pouvait avoir à voir avec la boucle, le sample, le montage, des choses qui reviennent et qui faisaient que peut-être vous aviez en fait la même matière entre les mains, quoi, du son?
Oui. Je ne sais pas si c'est exactement la même, parce que je pense que j'étais obligé, par exemple, pour ce qui est de La Chambre, ou ça a été le cas d'autres textes, où j'empruntais des éléments, j'allais prélever comme ça, donc sampler, si vous voulez, des échantillons dans ses textes, poétiques ou quelquefois même certains prose. Et après, il fallait des ajustements pour que ça puisse devenir quand même une chanson, ça devienne chantable, ça devienne une chanson, ce qui est pas tout à fait la même chose. Et cet exercice, on l'a fait un peu ensemble, mais souvent ensemble. Et ce qui a été une joie pour moi, c'est de pouvoir me rapprocher, grâce à ce qu'on appelle les ciné-poèmes, qu'on a commencé il y a très longtemps, puis qu'on a continué de loin en loin jusqu'à récemment, c'était que je pouvais lui rendre l'appareil, au fond, c'est-à-dire me rapprocher de son écriture, cette fois de me mettre au service de son écriture, qui était très en rapport aussi avec l'image, comment c'est, le cinéma, l'image en mouvement.
Est-ce que vous pouvez dire un mot, Rodolphe, de ce que c'était les ciné-poèmes?
Alors, c'était des formes, là aussi, qui n'étaient jamais figées, il y a eu plusieurs sous-genres, si vous voulez, sous ce nom-là, des choses qui étaient tantôt des textes animés, mis en musique par moi, tantôt des textes lus par Pierre, mais qui étaient accompagnés de projections, souvent d'images tirées, venues du cinéma, mais extrêmement ralenties ou anamorphosées. Et moi, j'étais comme une sorte de bruitiste, et puis quelquefois, on montrait comment une chanson se fait, par exemple, La Chambre, qui était tiré au fond d'un texte qui s'appelait Ping Pong.
Et qui s'appelait comment, pardon? Ping Pong?
Ping Pong, oui,
ah, Ping Pong. Ping Pong, comme le sport.
Ouais. Et au fond, c'était ça, notre relation. On jouait au Ping Pong. Il y avait ce texte qui lisait, et puis on entendait soudain défiler les éléments, les fragments de phrases qui allaient donner La Chambre. Et on faisait ensemble des choses qui étaient le making-of d'une chanson qui devient une chanson, avec des images très belles de filmées par Pierre, de Jeanne Balibar jouant au ping-pong.
J'ai vu aussi une vidéo d'une récente performance, je crois que c'est à Rome, à la Villa Medici, Rodolphe Burger, où le set de vous deux, vous êtes, vous me dites si je me trompe, hein, je crois que c'est au printemps dernier, vous êtes assis à une table et il y a un chant d'oiseaux et il y a juste une graphie qui reproduit comme une sorte de sinusoïdale, que ça pourrait être la sinusoïdale du chant d'oiseaux. Peut-être pour dire la pratique qu'il avait avec le dessin, avec le trait. Je ne sais pas qui veut nous en parler, Jeff Barda.
En fait, ce que vous venez de me dire me rappelle la couverture du livre qu'on a coédité avec Philippe Charron. On voit justement une performance d'oiseaux.
Ouais, c'est vrai. Il y a des dessins partout. Enfin, vous avez hors sol là.
Il y a des dessins partout.
Il y a des dessins. C'est des dessins très fins. Il y en a aussi des très très beaux dessins qui sont reproduits dans l'ouvrage collectif aux Presses du Réel.
Absolument. En fait, je pense que le dessin était peut-être la pratique la plus mineure de l'œuvre de Pierre.
En quantité ou en investissement?
En fait, au départ, ces dessins ont étaient uniquement disponibles sur son site. Mmh. Ensuite, il les a transférés sur son Instagram, me semble-t-il.
Ça vous fait rire.
Et j'ai appris récemment que, je ne sais pas si c'est une information privée, mais je ne crois pas, que les Beaux-Arts veulent faire une exposition et un catalogue. Dans le livre, il y a un chapitre qui est dédié aux images et qui est dédié à la question du monstre. qui est aussi un écho évidemment au titre de l'ouvrage.
La pratique monstre.
La pratique monstre, voilà. Alors cette image, l'image qui est en couverture, qui est une image où on voit deux oiseaux qui essaient de se parler. On voit que c'est un petit peu une sorte, c'est toujours très épuré.
C'est un dessin de lui ?
C'est un dessin de lui.
Ah ouais.
Voilà. Et à mon avis, ce dessin représente bien ce qui intéressait Pierre Alféri, qui est la question de la redondance. Parce que ce sont deux oiseaux qui se parlent, enfin qui essaient de se parler en tout cas.
Et que par point d'exclamation,
et voilà.
Virgule, point.
Mais vous voyez qu'on n'est pas dans le langage, on est dans l'infraverbal. Donc on est dans des intonations, dans des mouvements, encore une fois, dans des tentatives de dire des choses, mais elles sont démultipliées autour de ces oiseaux.
Et bon, démultipliées au sens où on essaye, on ne fait que réessayer de se parler, mm-hmm. ou démultipliées aussi parce que la profusion l'intéresse dans le message très beau que nous laissait l'auditeur Emmanuel. Il disait beaucoup la profusion de mots, mais point trop. Je trouvais ça mm-hmm. très beau comme façon mm-hmm. de décrire.
Mm-hmm. Bah, enfin, je pense les deux. Hein. D'ailleurs, si vous voyez le dernier ouvrage que vient de s'apparaître Pierre, roman photo, il s'intéressait aux sous-titres des films gore. Ce qu'il voulait, c'était ce qui l'intéressait, c'était de montrer comment les sous-titres traduisaient ces images. Mais souvent, les sous-titres sont complètement insignifiants vis-à-vis de la violence des images proposées.
Insignifiants ou mineurs.
Mineurs.
Ou pas dominants.
Ou en deçà.
Exactement.
Voilà.
Je voudrais qu'on écoute une archive qui fait très clairement écho à cela. C'est une archive de 2016 dans une émission qui s'appelait Les Nouvelles Vagues. Et j'avais reçu Pierre Alféri à l'époque.
Moi, j'ai évidemment pas du tout envie ni de lire ni de produire des textes à message qui donnent des leçons et qui disent aux gens voilà ce qu'il faut faire, etc. C'est pas du tout ça. Mais qui a un rapport avec la politique dans le type de travail qu'on fait, dans la forme justement du travail qu'on fait, ça je le crois absolument. C'est vrai du point de vue de l'infrastructure, c'est-à-dire comment on travaille, avec qui, pourquoi, dans quelles relations sociales, économiques, qu'est-ce qu'on essaie d'établir comme relation avec les gens dans le travail, ça c'est quand même essentiel, mais aussi dans les choix qu'on fait par rapport à ce qui domine, tout simplement, parce que ce qui domine, c'est ce qui a le pouvoir. Or, il y a des formes dans l'art, il y a des formes dominantes aussi, les formes qui sont les plus généralement admises, qui ont le succès le plus universel, etc. Le fait de se plier plus ou moins à ces injonctions, disons, du marché, en gros, bien qu'en littérature, c'est un tout petit marché comparé à d'autres, mais ça, c'est évidemment politique, c'est un choix politique. D'ailleurs, est-ce qu'on veut être du côté du plus fort ? Est-ce qu'on veut être du côté du dominant ? Ou est-ce qu'on veut être du côté des formes plus fragiles, des formes émergentes, des formes qui sont un peu orphelines, qui sont pas sûres d'elles, qui sont pas complètement accomplies, qui essayent des choses au risque de se planter ? Et ça, c'est un choix que les artistes font de toute façon, et ils le font plusieurs fois, même plein de fois au cours de leur vie et de leur carrière. Et évidemment, moi, par intérêt, par curiosité, par goût, je suis plus porté à lire et à défendre et à m'intéresser à des formes un peu minoritaires, des formes fragiles, expérimentales, comme on dit, donc qui risquent de passer totalement inaperçues.
C'est une archive de 2016, Pierre Alféri, à qui on rend hommage dans votre book club cet après-midi. Tout à l'heure, Emmanuel, notre auditeur, disait « Rencontrer quelqu'un vraiment et fortement après qu'il est mort par ses livres ». On peut aussi rencontrer quelqu'un vraiment et fortement en l'écoutant parler. Fanny de Chaillet, je fais une petite parenthèse, évidemment, ça n'arrive jamais de le dire, mais combien c'était jubilatoire de recevoir Pierre Alféri au micro. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui pensait en direct, qui s'amusait de vos questions, qui toujours voulait y répondre, pour de vrai, vraiment et fortement, pour reprendre encore les mots de cet auditeur. Voilà, je ferme cette parenthèse. Peut-être pour vous interroger, tous les trois, sur la dimension politique qu'il évoque lui-même. Qu'est-ce que vous auriez à en dire, Fanny de Chaillet ?
Je sais pas. Là, il est très clair dans la façon dont il l'expose. Je trouve ça très... Je l'avais jamais entendu. Enfin, je connaissais pas du tout cette archive. Mais en tous les cas, moi, je le rejoins fortement du point de vue de l'expérience, de ce qu'on a partagé ensemble de ce point de vue-là. C'est-à-dire que jamais on s'est dit qu'on allait faire du théâtre ensemble pendant 10 ans, par exemple. À chaque fois, c'était vraiment
se redire...
Oui, ce pourquoi on faisait les choses, est-ce qu'on les faisait ensemble ou pas. Enfin, on était au travail tout le temps, en fait. Mais c'était pas du tout figé, dans le sens où on s'est pas dit... Enfin, il y avait pas de programme, quoi. Globalement, on a quand même enchaîné les projets, mais pas toujours, d'ailleurs. Mais à chaque fois, à des endroits très différents. Donc, celui de la stricte commande, puis finalement, celui du partage du plateau, pour aussi qui... j'avais envie qu'il soit confronté à ça, de voir comment l'écriture pouvait naître de la répétition. Par exemple, ça, c'était très, très amusant de faire ça.
Répétition, mais cette fois, la répétition de spectacle, enfin,
voilà,
un travail.
Voilà, mais de jouer tous les deux, vraiment, d'être au plateau tous les deux, pour qu'ils puissent éprouver aussi cette chose-là. Puis après, il y a eu Les Grands, ou alors c'était un peu plus, je veux dire, dans les clous, dans le sens où c'était vraiment une commande de texte, mais en même temps en lien avec les acteurs, où il a fait des interviews avec eux. Donc tout ça était toujours très au travail, c'est-à-dire que jamais... Jusqu'au cœur où, en fait, il devait pas être là. Et finalement, ces poèmes sont devenus le terreau commun des acteurs pour fabriquer cette forme. Donc, c'est, à chaque fois, on réinvestit à partir d'un autre endroit notre travail ensemble, en fait. Et en ce sens, oui, c'était pas casse-gueule, mais je veux dire, rien n'était sûr, quoi. Tout était toujours dans l'expérimentation des choses. Et ça, c'est quand même une façon d'envisager le rapport à l'art, je crois... de façon un peu particulière.
Mais ça a à voir avec ce qu'il dit dans l'archive, à savoir n'être pas du côté des plus forts.
En tous les cas, de ceux qui ne sont pas certains des choses. Moi, je dirais ça plutôt, des plus forts peut-être, mais enfin ceux qui ne savent pas complètement, qui sont obligés d'expérimenter, de chercher, de continuer à faire ça parce que c'est ce qui les fait tenir en fait. Donc oui, c'est ça, être du côté des plus.
Ceux qui cherchent.
De ceux qui
cherchent. Plus chercheurs.
De ceux qui expérimentent, ouais, je crois.
Ça vous évoque quoi, Jeff Barda, la dimension politique, là, dans l'archive de 2016 de Pierre Alféri ?
Deux choses. La première, c'est que je crois que Pierre Alféri s'est toujours tenu très loin de ce qu'on appelle la littérature industrielle, ou ce que Liane Giraudoux appelle la littérature de poubelle.
Beaucoup plus tranchant.
Voilà. Je pense que déjà, il y a ça. Et je pense que cette archive de 2016 doit aussi faire référence aux événements liés à la Fondation Louis Vuitton, où s'est organisé un grand festival de poésie auquel Pierre s'est très clairement insurgé, puisqu'il a écrit une lettre qui a été co-signée par Agamben, par Suzanne Doppelt et plein d'autres personnes, en disant très clairement que la poésie n'avait rien à faire avec le fric. Et moi, c'est ce que j'entends aussi là-dedans. Mmh. Voilà.
Comment ça se traduit dans le texte en tant que tel ? C'est-à-dire à quel point, quand on entend « chercher encore », ne pas avoir quelque chose de figé, n'être pas sûr », est-ce que ça se lit ? Est-ce que ça s'entend quand on lit Alféri ? Parce que ça pourrait paraître un positionnement, ça pourrait paraître juste une éthique. Il disait aussi une façon de travailler ensemble, certes, mais enfin, il faisait des livres, il écrivait des choses.
C'est une question difficile. Je crois que dans son œuvre, il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont du mal à comprendre de quoi ça parle. Pourtant, ça me semble très clair. Et en fait, j'ai parfois envie de penser que ce qui est clair est parfois plus difficile à voir que ce qui n'est. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que ce qu'il fait, c'est très clair.
Alors, ça parle de quoi ? Tout parle de la même chose ?
Non, ça parle de plein de choses. Ça parle de science-fiction.
Hors-sol, que vous désignez.
Hors-sol, par exemple. Cubor, ça parle de la transformation de la société française dans les années 90. Parce qu'il y a des poèmes sur des poubelles, sur les éboueurs. Enfin, c'est vraiment des snapshots. Mais je crois que, en fait, ce qui intéressait Pierre, c'était qu'il n'était pas intéressé par les choses... culturel au sens ce qui c'est compliqué hein. Je crois que ce qui l'intéressait c'était de faire ce qu'il voulait en fait de pas avoir l'impression de devoir faire des choses comme par exemple écrire des romans qui soient des
alors j'ai posé une question qui fâche, mais est-ce qu'il pouvait se le permettre, enfin, désolé de poser cette question très prosaïque, est-ce que entre guillemets il pouvait faire ce qu'il voulait parce que concrètement il n'y avait pas d'enjeu financier, je me permets.
Il n'y avait pas d'enjeu. Enfin, il y en a pour tout le monde. Après, il était professeur aux Beaux-Arts. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui travaillait par
d'accord,
ailleurs.
C'était pas une posture de dire je fais ce que je veux parce que de toute façon, j'ai pas besoin de gagner d'argent.
Non,
vous voyez ce que
pas
je veux
du
dire
tout. Non.
Parlons d'argent, puisqu'il
n'était pas le genre à être. Enfin, comme ça.
Non.
Pas vraiment, non. Mais non, je crois pas. Enfin, non, pas du tout, même.
Non, moi, je dirais pas ça non plus. Mais c'est un positionnement, disons, politique de dire je ne veux pas faire je ne veux pas aller à Vuitton, je ne veux pas aller à la Fondation Cartier, je ne veux pas que la littérature ou la poésie joue le jeu de l'art contemporain. Et je pense que ça, c'est une position légitime. On peut faire de l'art, mais sans faire de l'art contemporain, sans jouer le jeu de l'art contemporain.
Et alors, si on pousse un peu plus loin, du coup, ça veut dire qu'il y a aussi une relation un peu plus générale à l'institution ?
Oui.
Oui. C'est, non, mais à l'institution, enfin, quel...
Tout confondu, j'entends.
Non,
tout
confondu, alors. Il était prof aux Beaux-Arts, par exemple. Oui, voilà. Donc, il était prof d'une institution. Et c'était je crois qu'il y tenait beaucoup. C'était vraiment quelque chose d'important pour lui. Donc là, c'est pas tout à fait pareil. On parle de faux mécènes, en fait. C'est ça qu'il attaquait avec ce texte-là. Enfin, en disant que cette soi-disant entreprise de soutenir des artistes servait quand même des gens à défiscaliser de l'argent. Enfin, c'est pour résumer très grossièrement, hein, c'est mon positionnement. Mais enfin bon, il n'y a pas besoin de. Enfin, c'est assez simple ce qu'il disait là-dedans. Après, ça a provoqué des grandes fâcheries au sein de toute cette petite bande. Mais enfin, c'était. Voilà, il disait des choses que d'autres disaient. Sauf qu'il a signé un texte et il a refusé d'y aller. C'est là où il était plus. Je sais pas. Enfin, il a été clair en tous les cas.
Mais je pense que dans l'archive, il y a ça derrière.
Oui, c'est possible.
Oui, c'est pour ça qu'on parlait de ça. Je me demandais pourquoi
c'est derrière. Je pense que c'est derrière. Oui.
Rodolphe Burger, quand vous entendez la voix de Pierre Alféri, d'une part, qu'est-ce que ça fait ? C'est vrai qu'on n'a pas du tout interrogé. Qu'est-ce que ça fait, une archive sonore désormais d'un auteur et d'un ami ? Et d'autre part, qu'est-ce que vous entendez dans cette idée-là de dimension politique qui est aussi abordée dans l'ouvrage collectif Jeff Varda ?
Vous dire ce que ça fait d'entendre la voix de Pierre, je ne sais pas, vous pouvez s'imaginer. Il se trouve aussi que je la joue au fond puisque je l'ai dans mon sampler que j'ai récemment fait des choses qu'on devait faire ensemble à la maison de la poésie et j'étais tout seul donc la seule façon de rendre présent c'était de jouer sa voix et concernant cette archive son positionnement je dirais pas politique mais sur le politique enfin, l'enjeu politique de toute création toute mise en forme. Je reconnais chez lui quelque chose qui est une allergie fondamentale au rapport de domination et surtout ceux qui, quand ils en viennent justement à tenter à quelque chose qui est le plus précieux, quoi, qui est le cœur même de la création du travail d'écriture, quand il lui paraissait qu'elle s'était contaminée ou corrompue par les forces de l'argent ou d'une manière générale tout ce qui pouvait relever de la domination, je dirais. C'était quelqu'un qui ne pouvait fonctionner que dans un rapport horizontal à ses partenaires aussi et donc il avait besoin de se tenir à distance complètement de tout ce qui menaçait ça.
Fanny Deschaillé, vous avez évoqué son enseignement aux Beaux-Arts. Je voudrais qu'on écoute la voix d'une, j'ai l'impression, jeune femme. Elle s'appelle Jeanne, une auditrice de l'émission qui a voulu adresser un message en ce jour de book club consacré à l'œuvre de Pierre Alféri.
Il y a environ 4 ans, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Alféri lors d'une conférence sur le bref au lycée Lacanal. Lors de cette conférence, nous avions parlé d'un texte d'Antonio Pizzuto, un auteur italien assez méconnu, je crois. Un texte qui parlait de main à l'arrière d'un taxi, qui enlevait tous les mots pour juste faire une sorte de poème étrange. Et je ne sais pas pourquoi, mais ce texte m'avait totalement bouleversée. Il m'avait donné une énergie folle, mais c'était peut-être surtout l'énergie de Pierre Alféri. J'ai pu le remercier 2 ans plus tard quand je l'ai re-rencontré. Mais c'est surtout à travers ses livres que je l'ai rencontré et que je l'ai découvert, notamment dans « Divers chaos », ces tout petits poèmes qui récoltent le quotidien, ou encore dans « Chercher une phrase », lorsqu'il fait de son expérience personnelle une expérience de lecture, une expérience de la littérature théorique. Et je pense que c'est grâce à lui que j'ai voulu étudier la poésie française contemporaine, mais aussi la poésie américaine du XXe siècle. Et c'est peut-être lui aussi qui m'a donné l'espoir qu'un jour j'arriverai à écrire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureuse de pouvoir lui rendre hommage à travers cette émission. Merci beaucoup.
Le goût. Le goût et ses changements saisonniers sont plus sûrement guidés par ce sens du sens que par une préférence marquée pour des thèmes ou des genres. Les lectrices, les lecteurs passionnés de littérature, quoique rien ne les y encourage, suivent d'instinct la piste invisible d'une humeur, un sillage climatique. pour se retrouver affecté par le sens dans tel jeu d'ombre et de lumière, le voir advenir sous un certain jour. Ce qu'il cherche n'est pas une phrase, mais la phase et la face la plus hospitalière du ciel. C'est un extrait de Chercher une phrase, c'est un texte qui est apparu chez Bourgois quand on disait que beaucoup de textes étaient parus chez POL, signé Pierre Alféri. C'est un petit fragment donc, qui s'appelle Le Goût, et juste avant, la voix de Jeanne qui racontait sa rencontre de deux manières différentes. Je trouve ça très beau que le mot rencontre en fait arrive dans la voix des deux auditeurs, parce que c'est aussi quelque chose qui est beaucoup évoqué dès votre texte d'introduction. D'ailleurs, Jeff Barda, je me faisais la remarque, de amateur de rencontres et de croisements, je crois. Vous écrivez, non ?
Absolument, oui.
Qu'est-ce que ça dit de peut-être sa manière de faire de la littérature, de penser le texte, de penser son travail en fait ?
Ben, je pense que ça fait référence à ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaillait parfois seul, mais qui avait aussi qui se laissait tenter par des projets en dehors de son expertise, puisque je crois que Pierre Alféri était vraiment un amateur.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'il se présentait comme quelqu'un qui ne voulait pas jouer le jeu du spécialiste. Et l'amateur, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est un pragmatiste, puisque c'est quelqu'un qui s'adapte à ce qui se passe. Donc sans jouer le jeu du savant, si vous voulez.
Qu'est-ce que ça produit dans les textes, dans les formes ?
C'est ce que nommait Rodolphe quand il parle d'horizontalité. Enfin, moi, je trouve ça très, très... Ça, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que c'est quand même, enfin, je sais pas, Rodolphe, je sais pas si tu m'entends, mais il y avait quand même quelque chose du partage. Et c'est pour ça, quand tu parles de l'amateur, c'est aussi ça. C'est quand même quelqu'un qui avait un savoir inouï, oui. Une culture inouïe. Enfin, je veux dire, tout le monde le sait, quoi. C'est quand même quelqu'un. Et qui, pourtant, ne prenait jamais les gens de haut, était tout le temps dans le partage de savoir de façon très simple et très joyeuse et très heureuse. Enfin,
oui, elle parlait d'énergie, Jeanne.
Ouais, c'est très précieux, ça. C'est extrêmement rare. Enfin, moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, en fait. C'était fou. C'est-à-dire que une culture presque humaniste à l'ancienne, quoi. Je veux dire, tellement, tellement vaste. Et en même temps, il était tellement partageur, quoi. Et tellement heureux de partager ça. Enfin, moi, j'avais jamais honte de demander quelque chose à Pierre. Non, mais je veux dire, on peut avoir honte quand on rencontre des gens comme ça.
Bien
ça aussi brillant.
Bien sûr.
Et là, pas du tout, jamais. Je veux dire, au contraire, quoi, bien au contraire. Et ça, c'est, en ce sens, enfin, c'est précieux, c'est très précieux, je trouve.
Il parle là dans ce texte, moi, que j'adore, où il dit les lecteurs suivent comme ça une piste par instinct, alors que rien ne les y encourage. Je trouve ça très beau, cette petite parenthèse. On ne sait pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est, il n'y a pas de guide pour être des bons lecteurs, ou est-ce que le monde ne fait pas la meilleure place à ceux qui cherchent avec instinct la phase la plus hospitalière du ciel? Bon, on n'a pas jusqu'alors parlé de la beauté aussi, ouais. De ces textes-là, Jeff Barda, Fanny de Chaillet, Rodolphe Burger. C'était lui-même un lecteur, un grand lecteur ?
Ouais, quand même. Avec des phases. Après, il lisait beaucoup... Enfin, moi, en tous les cas, dans ce dont on parlait, c'était beaucoup de littérature qui n'était pas française. Beaucoup de littérature américaine, beaucoup de poésie, mais plutôt dans d'autres langues que la sienne. Enfin, souvent,
et
je
en
le voyais
comprenant,
lire.
Parce que j'ai aussi des souvenirs d'une archive où il dit « Oh, bah, j'adore lire dans d'autres langues parce que
ouais.
C'est plaisant. »
Ouais, il lisait... moi, j'étais toujours... Bon, après, c'est aussi quelqu'un qui parlait plusieurs langues, mais il lisait beaucoup dans d'autres langues que la sienne. Ça me saisissait. Enfin, il arrivait aussi, parce qu'il en parlait plusieurs, à lire dans les langues... original, mais oui quand même, il lisait beaucoup par fragments. Je sais pas, enfin, en tous les cas, quand on en parlait, j'ai l'impression que c'était par fragments, mais peut-être il lisait des textes en entier. Mais
Rodolphe Burger, est-ce que il vous arrivait d'échanger avec Pierre Alféri sur ses lectures? Rodolphe Burger,
bah oui, enfin, échanger, c'est beaucoup dire, c'est plutôt lui
qui vous racontait ce qu'il lisait,
qui voilà. Et à propos de choses alors incroyables, je sais pas, moi, la littérature japonaise, je s'intéressais à ça, la littérature japonaise médiévale. Et je pense que il disait pas par fragments toujours, il se collait des pans entiers, quoi. Enfin, il a une capacité de.
Ouais, ça c'est sûr.
Enfin bon, ça c'est ce que disait Fanny, quoi. C'était à la fois quelqu'un qui qui était absolument au-dessus de, enfin je sais pas, dans une espèce de supériorité intellectuelle incroyable, mais qui ne faisait jamais sortir. Donc il n'y avait jamais de cuistrerie ou d'effet d'érudition, je ne sais pas quoi. C'était toujours en effet dans la générosité, un partage. Et donc je me souviens même récemment de tout d'un coup je découvre qu'il toute une soirée, il nous a raconté des anecdotes plus délicieuses les unes que les autres à propos de l'Antiquité romaine. Je ne savais absolument pas qu'il s'était intéressé à l'Antiquité romaine.
J'aime bien l'idée d'avoir des anecdotes délicieuses sur l'Antiquité romaine. Quand on entend aussi la voix de Jeanne, je sais pas, je me figure une jeune femme d'une vingtaine d'années avec aussi un appétit de lecture, de vouloir rencontrer ces textes-là. Je trouve ça très joyeux. Vers quel livre vous orienteriez les gens qui nous écoutent de 20 ans ou de 80 ans, qui voudraient eux aussi avoir ce point de rencontre avec les textes de Pierre Alféri, et pourquoi?
Bah, moi, je trouve qu'Orsol, par exemple, est un très beau roman.
Donc plutôt assez récent.
Voilà, le dernier. Et puis, Divers Chaos, par exemple, je trouve que c'est un recueil de poèmes qui est vraiment, enfin, pour l'avoir beaucoup travaillé avec les jeunes gens du cœur, par exemple, qui sont des gens qui avaient 25 ans à l'époque, je voyais bien.
Ils en disaient quoi?
Eh ben, alors, c'était.
Peut-être on rappelle le cœur, oui. Ça réunissait au plateau des plutôt assez jeunes interprètes.
10 jeunes acteurs, oui, ouais. Et vraiment, le terreau commun, c'était des poèmes de Pierre que je leur avais demandé d'apprendre, tirés de Et la rue, en fait. Donc, c'est vraiment des poèmes très situés. Et il était venu leur parler pour leur raconter comment il avait écrit ses textes. Ça, c'était vraiment génial.
C'est-à-dire, il les avait écrits comment?
Eh ben, justement, en leur disant qu'un poème, il était toujours situé. Je crois qu'il paraphrasait Céline, d'ailleurs, quand il disait ça. Mais il y avait quelque chose de, on n'écrit pas de nulle part, en fait. La poésie, c'est pas magique. Enfin, et il leur disait, c'est que, voilà, tous ces poèmes étaient nés d'un endroit précis. Donc, il prenait poème à poème, hein, il leur avait lu un par un, en racontant comment il avait écrit, d'où il avait écrit ça. Et c'était pas même sur la rue, hein, qu'il est nous, voilà. Et ça, c'était dingue, parce que tout d'un coup, ça tapait, ça rendait la chose concrète, en fait, pour eux. La poésie, enfin, c'est comme si la poésie, tout d'un coup, pouvait faire partie de leur vie. Enfin, je sais pas, ça donnait quelque chose de très joyeux à envisager, en fait. Donc,
Divers Chaos et Hors-Sol.
Ouais, Divers Chaos et Hors-Sol, là, maintenant.
Jeff Barda?
Moi, je dirais Sentimental Journée. Qui est un.
Donc c'est plus ancien.
Qui est plus ancien. C'est un d'ailleurs, c'est un titre intéressant parce que c'est une traduction d'un. Une mauvaise traduction d'un standard de jazz.
mais c'est un texte. Est-ce qu'on peut dire que quand même nous rendons hommage à quelqu'un que vous avez ou bien beaucoup fréquenté, beaucoup lu, parfois beaucoup aimé, avec qui vous avez beaucoup travaillé, et que vous le faites, en tout cas pour vous deux qui êtes là autour de la table, avec un immense sourire? Vous évoquez sa littérature, sa pensée, sa présence avec un immense sourire. Bon, voilà, ouais, je le dis,
c'est vrai.
Sentimentale journée.
Oui, ce sont les fameux les affects joyeux dont on parlait tout à l'heure, vivants. Je crois que vous avez dit vivant tout à l'heure. Sentimentale journée, c'est un texte fantastique parce que ce sont des poèmes de conversation où en fait, Alféri revisite un petit peu les poèmes de conversation d'Apollinaire, mais réintroduit la parole ordinaire. La parole ordinaire, c'est quand même une question qui intéressait Pierre Alféri et qui est au cœur aussi de cette pièce avec toi, Fanny, parler. Et oui, il montre que justement, ben, on peut traiter la conversation dans du vers.
Et en faisant rentrer
des petits bouts à l'intérieur. Et que, en fait, pour moi, c'est aussi un texte sur ce que c'est que l'écoute. Est-ce qu'on s'écoute parler, hein, et comment on s'écoute parler, et quelles sont les stratégies d'évitement qu'on met en jeu dans la parole ordinaire?
Rodolphe Burger, si vous deviez conseiller comme ça à quelqu'un qui nous écoute un ou plusieurs livres ou une vidéo YouTube de vos ciné-poèmes pour rencontrer l'œuvre de Pierre Alféri, vous le feriez avec quoi?
Voilà, ce serait forcément plus d'un livre, c'est sûr.
Alors allons-y. Peut-être
au moins un livre du côté d'Alféri essayiste, quoi, enfin, incroyablement.
J'ai pas entendu. Alféri.
Brillant. L'essayiste, je dirais. L'Alféri de chercher une phrase ou de bref.
Ouais.
Bref, ce recueil d'essais, absolument brillantissime sur des sujets divers, donc ça laisse imaginer l'enseignant qu'il a été. On a des témoignages de ça. Et puis sinon, alors dans sa poésie, je ne sais pas, alors je dirais peut-être La Voix des airs, ou après vous, ou je dirais n'importe quoi de lui, quoi. Tout est bon. Tout est bon, vraiment. Et les dernières choses qu'on ait faites, qu'on ait enregistrées ensemble, c'est une chose qui était vraiment. Alors bon, il parlait de d'art minoritaire là. Vraiment, c'était une toute petite commande. Et on a fait un vinyle à un seul exemplaire. C'était une sorte de parodie de ce qu'on appelle les AMSR, vous savez, les choses chuchotées.
ASMR.
Et c'est un texte ASMR, pardon. Et c'est un texte tout à fait extraordinaire, qui est une espèce de leçon d'apprentissage, comment dompter sa douleur. Hein. Donc c'est évidemment rétrospectivement très émouvant, mais il a écrit ça avant, même sa maladie. Et il parle de ce qu'il appelle la gymnastique de l'attention. Et il l'exerce dans ce texte, donc c'est vraiment la démonstration dans le texte de ce que c'est que l'exercice d'une attention extrême, quoi, aux choses. Et c'est très très émouvant. Enfin voilà, c'est par exemple ça. Et ça se trouve pas dans le commerce, par contre.
Bon bah voilà, donc c'est vraiment pour faire rêver les gens. Mais en tout cas, vous avez surtout dit, Rodolphe Burger, tout. Tout est à lire. Et on peut aussi se procurer Pierre Alféri, une pratique monstre, un livre collectif dirigé par Jeff Barda et Philippe Charon aux Presses du Réel. Un très grand merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
À cette heure-ci, on élargit la conversation autour des livres et le jeudi, on le fait en compagnie des correspondants de Radio France à l'étranger. Aujourd'hui, c'est vous qui nous appelez depuis Londres, Richard Place. Bonjour.
Bonjour.
On parle de Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, qui est disparu il y a 2 ans. Et si on en parle, c'est bien pour des livres et pas pour de la musique. Parce que ce soir, à Christie's, il y a une vente aux enchères. Elle est impressionnante parce que on y trouve les raretés, la collection des livres anciens, en fait, de Charlie Watts.
Oui, c'est un événement rare, tant les pièces sont précieuses et nombreuses. La plus belle vente de ce type depuis plus de 20 ans, selon les spécialistes ici à Londres. Charlie Watts était un collectionneur, un brin obsessionnel, il faut bien le dire. Et en plusieurs dizaines d'années, il a rangé dans sa bibliothèque des centaines de raretés. Charlie Watts, collectionneur, gentleman, Rolling Stone, c'est le titre de cet événement.
Ça promet. Bon, qu'est-ce qu'on peut acheter? Est-ce qu'il faut avoir déjà beaucoup d'argent? Mais qu'est-ce qu'on peut acheter?
Oui, il faut beaucoup d'argent et il faut aimer les romans d'Agatha Christie. Dans leur première édition, Watts était un fan et ça se voit dans l'exposition organisée dans les locaux de Christie's. Les enquêtes d'Hercule Poirot, Le Train Bleu, Le Crime de l'Orient Express, etc. Il ne manque aucun des écrits de la romancière britannique. Des premières éditions parfaitement conservées. Au total, 82 volumes dont certains portent la dédicace d'Agatha Christie herself. Charlie Watts cultivait une fascination pour les histoires de détectives, en particulier des années 20 jusqu'au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il était prêt à remonter un peu plus loin dans le temps pour lire Sir Arthur Conan Doyle et son Sherlock Holmes, évidemment, ce soir. Est mise en vente une magnifique édition du Chien des Baskerville avec cette phrase manuscrite de l'auteur lui-même. J'ai parcouru le Dartmoor avant d'écrire ce livre. Le Dartmoor, c'est cette région du Devon, le sud-ouest de l'Angleterre, où le chien monstrueux rôde dans le brouillard et attaque ses pauvres victimes. Conan Doyle ne donnait que peu d'indications sur la manière dont il concevait ses récits, et ses dédicaces étaient généralement très formelles. Celle-ci a d'autant plus de valeur, un livre qui ce soir pourrait se vendre à plus de 115 000 euros.
Je ne les ai pas, mais de toute façon, il ne s'agit même pas de la pièce la plus chère, il y a plus cher encore.
Oui, celle qui devrait affoler les acheteurs les plus fortunés est signée Francis Scott Fitzgerald. Il s'agit de son roman le plus connu, Gatsby le Magnifique, distribué évidemment par millions dans le monde, adapté au cinéma. Celui de Charlie Watts pourrait se vendre près de 350 000 euros ce soir. Là encore, parce que l'auteur y a couché quelques mots manuscrits. Cet exemplaire était destiné à celui qui a directement inspiré le personnage du héros. Scott Fitzgerald écrit « Au Gatsby original de cette histoire, merci de m'avoir laissé révéler les secrets de son passé. » Initialement donc, pour un ami de Fitzgerald et auteur lui aussi, nommé Harold Goldman, cette dédicace a donc fini entre les mains du batteur des Rolling Stones. Ce qui fait la valeur de ces ouvrages, vous l'avez compris, c'est qu'ils sont anciens, parfaitement conservés, et surtout pour certains, qu'ils comportent quelques lignes manuscrites et pas toujours celle de l'auteur, parce que l'avantage, quand vous êtes en Rolling Stone, il y en a sans doute beaucoup, mais c'est que vous êtes Quand vous êtes un collectionneur, c'est que vos amis peuvent enrichir votre bibliothèque. Ainsi, sur certains livres vendus ce soir, on peut lire « Joyeux Noël, Charlie » et c'est signé Mick Jagger. Voilà qui augmente considérablement la valeur de l'exemplaire.
Tu m'étonnes. Charlie Watts aurait volontiers fait partie du Book Club de France Culture parce qu'il collectionnait avec assiduité, mais alors pas n'importe quel livre, parce que lui-même était avant tout lecteur.
Oui, et sans doute se projetait-il dans ces histoires de détectives dont je vous parlais du début du XXe siècle, ces dandys lettrés qui pouvaient résoudre les pires crimes tout en fumant la pipe ou en buvant une tasse de thé, le tout dans de beaux costumes soignés. Cette collection montre son goût pour les intrigues policières anciennes, pour ce style, cette époque, pour une forme d'aristocratie aussi. On le voyait bien au milieu des Rolling Stones, s'il dépareillait un peu quand ses partenaires de rock collectionnaient les conquêtes et les excès, lui collectionnait les livres. D'ailleurs, il y a un autre pan de sa vie exposé là aujourd'hui, c'est sa passion pour le jazz. C'est pour cette raison qu'il est estampillé « gentleman » dans l'intitulé de la vente aux enchères. Sur l'un des murs où sont exposées toutes ces pièces uniques, on peut lire une citation signée Keith Richards, un très bel hommage de la part du guitariste des Stones. Ouvrez les guillemets. « Les gens comme Charlie sont très durs à mettre dans une case. Il n'en existe pas pour les types comme lui. » Un mec absolument unique.
Merci beaucoup, Richard Place. Vous allez aller à la vente aux enchères ou pas?
Ah non, je veux pas me faire du mal.
Acheter un petit Agatha Christie. Juste un petit Agatha Christie.
Je vais aller dans un Waterstones, les D'accord. librairies ici. Je prendrai un exemplaire plus
okay.
récent.
Merci beaucoup, Richard. On peut réécouter Lecture sans frontières sur franceculture.fr. À cette heure-ci, tous les jours, a lieu le grand jeu des pages musicales. D'habitude, c'est vous, vous êtes en train de lire, vous repérez l'évocation d'un air musical dans le livre, vous faites une photographie du paragraphe, vous nous l'envoyez via l'Instagram du Bookleur de France Culture, on a une collection, on plonge dedans et on termine en musique. Mais aujourd'hui, on rendait hommage à Pierre Alfieri, je me suis dit que j'allais jouer. Donc c'est moi qui décide d'envoyer un extrait, donc c'est un extrait de Hors Sol, paru aux éditions POL, et on y lit ça. Le colloque a pris fin dans une semi-torpeur. On est descendu dans la cale, où nous attendait une piste de danse, vide, et une scène, occupée déjà par les trois musiciens amateurs de la 130. En nous voyant, ils ont dû vouloir nous donner du courage. Ils nous ont joué « I hate heaven » des Residents. Et puis un titre des Pixies, qu'ils avaient adapté pour l'occasion. « In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things, and I got mine.
In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, got your good thing, and I've got mine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You've got all your good things.
Au son, c'était Grégory Wallon, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Oriane Delacroix, Jeanne Léos, Léa Weiss-Grus, Marianne Chassor, Mathilde Wagman et Valentin Rémy. Vous pouvez réécouter ce Book Club en hommage à Pierre Alfieri sur franceculture.fr. Très bel après-midi à toutes et à tous sur France Culture.